Monsieur Emmanuel Aubin, professeur de droit public de l'Université de Poitiers, à propos de comparaison des fonctions publiques françaises et nippones. Monsieur Emmanuel Aubin, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de commencer, je voudrais vous présenter des excuses les plus sincères, puisqu'hier après-midi, je n'ai pas pu assister à la suite des débats, et je vais devoir filer à l'anglaise juste après le texte, parce que je suis d'un tempérament optimiste et j'avais accepté d'être vice-président de l'Université de Poitiers, et la fonction me rattrape et m'oblige à vous laisser. Donc, je suis vraiment désolé de ne pouvoir rester et de pouvoir échanger ensuite avec vous, avec les collègues et amis japonais, également français. Donc, encore une fois, toutes mes excuses. Alors, je suis très heureux d'être présent pour inaugurer cette nouvelle coopération entre les juristes français et japonais. C'est aussi, je voulais y insister peut-être pour débuter mon propos, une double histoire de famille, puisque c'est une coopération à la fois internationale, interdisciplinaire, mais également interuniversitaire, puisque les universités de Tours, laquelle est porteuse, et de Poitiers sont associées à cette coopération. Et elles sont sœurs depuis 1954, hein, pour nos amis japonais. L'université de Poitiers a été créée en 1431, puis des écoles se sont créées autour d'elle, dont l'école de droit de Poitiers en 1954. Et maintenant, ce sont deux universités qui sont des sœurs et qui coopèrent sur ces projets. Et l'autre histoire d'amitié, c'est celle qui me lie au professeur Monjal, qui est le porteur, le grand porteur, je vais presque dire l'empereur de ce projet, avec ses innombrables voyages au Japon et sa connaissance. Nous avons mis en commun, en fait, notre réseau de professeurs japonais à Poitiers et à Tours, et on s'est rendu compte que, finalement, on pouvait étoffer cette coopération, et on espère que le point d'orgue de cette coopération sera le colloque de 2018, avec deux journées qui seront à Tours, et puis une troisième à Poitiers. Celle de Poitiers sera dédiée précisément à des regards croisés sur la réforme de l'État en France et au Japon. Et donc, du coup, c'est une transition avec le sujet de ce matin. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Takamuro Kimura, qui travaille beaucoup sur justement les liens entre les administrations françaises et japonaises, et qui avait notamment publié une très belle réflexion sur l'intérêt général en France et au Japon. Et il montrait dans cette étude qu'il y avait une influence de la pensée du doyen Ryu et sur justement la façon dont on appréhende la puissance publique, l'intérêt général au Japon, tout en indiquant qu'au Japon, la nuance, la distinction que l'on fait vraiment en France, même s'il ne faut pas exagérer les clivages, entre la sphère publique et la sphère privée était beaucoup moins marquée au Japon qu'en France. Et finalement, ça va être ma trame pour réfléchir justement aux conceptions de la fonction publique en France et au Japon. On va voir que malgré des divergences, j'en ai trouvé un certain nombre, il y a quand même des convergences. Et qu'au fond, dans les deux pays, on ne peut pas échapper à une réflexion sur qu'en est-il de la distinction entre les deux mondes du travail, celui des fonctionnaires qui servent l'intérêt général, celui des salariés qui sont plutôt dans une logique de rentabilité et de performance, de concurrence. Autre point commun, quel est le droit qui est applicable à la situation des fonctionnaires? Est-ce qu'il faut que ce soit du droit administratif, c'est-à-dire un droit unilatéral, imposé, ou bien est-ce qu'il faut que ce soit un droit négocié, un droit conventionnel? Et là, on va voir qu'il y a des réflexions tout à fait intéressantes. En France, on s'est posé la question en 1946, lors de notre premier statut général républicain de la fonction publique, faut-il ou pas soumettre les fonctionnaires à un droit administratif? Et à l'époque, de grands auteurs tels que le professeur Rivero écrivaient au Dalloz que c'était peut-être la fin du droit de la fonction publique si l'on rapprochait trop la situation des salariés et des fonctionnaires. Alors l'autre point de départ, c'est qu'au Japon comme en France, on se pose des questions, et j'évoquerai les réformes qui ont été menées, sur le périmètre de la fonction publique. Il y a, depuis une quinzaine d'années, cette idée qu'il y a trop de fonctionnaires et qu'il faudrait réduire le périmètre. Et on va voir que cette réflexion, elle est notamment liée au poids des dépenses publiques, liées notamment à la masse salariale des fonctionnaires, alors même qu'il y a une différence vraiment considérable entre les deux pays. En France, 20% de la population active appartient à la fonction publique. Nous avons 5,3 millions de fonctionnaires depuis 2016, auxquels il faut ajouter 900 000 agents contractuels de droit public. Donc on a un secteur qui en réalité dépasse plus de 6 millions d'agents soumis au droit public. Alors qu'au Japon, le poids des fonctionnaires par rapport à la population active est de 3%. Enfin, 6%, excusez-moi, 6,5% exactement, mais entre 6,5% et 21%, vous voyez l'écart considérable. Et pourtant, on le verra, on s'est quand même posé la question de savoir s'il n'y avait pas trop de fonctionnaires au Japon, notamment en raison d'un contexte économique contraint. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Le Japon, je crois, a une dette qui est égale à 245% de son produit intérieur brut, et la France va dépasser 100% dans les semaines qui arrivent, si ce n'est déjà fait. Ce contexte-là contraint permet de comprendre en grande partie ce débat sur le périmètre de la fonction publique. Alors, cet intérêt finalement croisé, puisque au fond, quand on regarde, c'est ça qui est très intéressant, et ces journées, ce premier colloque le montre bien, il y a un intérêt très fort pour le droit comparé au Japon. À chaque fois qu'il y a une réforme dans la fonction publique, des universitaires travaillent sur cette réforme. Et ensuite, le ministère des Affaires intérieures et de la communication. Alors, à ne pas confondre, je le précise pour nos collègues français, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère des Affaires intérieures et de la communication, qui comprend notamment le ministère de la fonction publique. Eh bien, ce ministère commande toujours à des universitaires des réformes. Bon, donc déjà, c'est un aspect important, le poids doctrinal. Et c'est justement dans ce cadre que j'étais amené à travailler à deux reprises avec une délégation de ce ministère. C'était en novembre 2012 et en novembre 2014, où j'ai eu la chance, le loisir d'être auditionné par une délégation de ce ministère qui était emmenée par notre collègue, le professeur Yasushi Shimoi, de l'université de Chiba, à qui on avait demandé de réfléchir sur l'application finalement du principe d'égalité dans la rémunération des fonctionnaires en France et également sur une réforme de la fonction publique territoriale. Et c'était tout à fait passionnant parce que après 3 heures de discussion grâce au traducteur de l'ambassade du Japon en France, nous avons dégagé justement des convergences et des divergences entre les deux pays à partir de ces échanges. Alors les convergences, c'est d'abord la structure de la fonction publique. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un avancement à l'ancienneté et puis une mobilité qui est plutôt verticale. On s'aperçoit que dans les deux pays, il n'est pas toujours facile de pratiquer ce qu'on appelle la mobilité horizontale, c'est-à-dire d'une administration à l'autre, voire de l'administration vers le secteur privé, même si le Japon a pris de l'avance sur la France sur ce second terrain. Il y a eu des réformes intéressantes au Japon. En 1999, par exemple, une loi avait pour objectif de faciliter les échanges des fonctionnaires de l'administration vers le secteur privé. Cette loi, on l'a eue en France en 2007. On a un léger décalage dans le temps. Une loi qui vise à faciliter justement le passage de hauts fonctionnaires et de fonctionnaires de responsabilité vers le secteur privé. Et cette loi s'est également accompagnée de l'obligation pour les administrateurs civils, alors ce sont les hauts fonctionnaires de nos administrations, de pratiquer la mobilité dans au moins 2 ministères avant d'être promus. Et c'est d'autant plus intéressant qu'au Japon, il y a une loi qui précisait que les hauts fonctionnaires ne pouvaient pas être promus à une division dans un ministère avant d'avoir justement acquis une expérience professionnelle dans au moins 2 autres organismes que leur administration d'origine. Autre convergence, en période de crise financière, l'influence de ce qu'on appelle le New Public Management. Vous voyez, Pascal Jean disait, cher collègue, que j'en trouvais grand plaisir que son anglais, mais enfin, il y a pire. Voilà, parce que là, en anglais, je suis au maximum en termes de prononciation. Donc, ce New Public Management a exercé une influence au Japon et en France au même moment, à la fin des années 1990. Et là, on a une convergence très intéressante qui est liée notamment à des difficultés financières. Je rappelle qu'en 2013, j'avais ce chiffre qu'au Japon, la dette avait dépassé le million de milliards de yens et que le Japon avait connu à la fin des années 80 la plus grave récession économique depuis 1945 avec l'éclatement de cette bulle économique qui a eu des répercussions puisque 9 000 milliards de dollars en équivalent d'actifs immobiliers boursiers se sont évaporés. Et donc évidemment, dans un contexte comme celui-ci, 1999 a été une année noire pour le Japon. Et à l'époque, est apparue dans la doctrine cette idée que finalement, il fallait peut-être revoir la situation statutaire des fonctionnaires, qu'il fallait peut-être avoir moins de fonctionnaires pour que le poids, ici, des dépenses soit moins important. Et en France, eh bien, on s'aperçoit qu'à partir de 2001, c'est là qu'on a eu les rapports qui ont commencé à être assez virulents sur le secteur public et sur la fonction publique notamment, en disant qu'il fallait réduire le périmètre des fonctionnaires et qu'il fallait également, pourquoi pas, supprimer ce que certains appellent le scandale, c'est-à-dire l'emploi à vie, alors qu'en réalité, il s'agit seulement d'une situation statutaire qui peut changer pendant une carrière. Bon. On a une convergence des débats sur faut-il conserver un secteur public aussi important et est-ce qu'il faut toujours garder la relation un droit statutaire dans les deux secteurs. Alors, au Japon, il y a, d'après ce que j'en sais, et je mets beaucoup de réserves, un principe d'ancienneté qui est gravé dans la pratique concernant l'avancement, qui est le principe du Nenko Juritsu. Alors, c'est certainement mal prononcé, mais en français, c'est un principe de séniorité, où on dit encore avancement à l'âge, avancement à l'ancienneté. Bon, ben, c'est le même qu'en France. En France, on appelle ça le phénomène GVT. Alors, ça veut dire glissement, vieillesse, technicité. Et cet effet GVT, l'avancement à l'ancienneté des fonctionnaires, ça a un effet, si on va jouer sur les acronymes, c'est un effet TGV pour les finances. Je vous donne un seul exemple. Pour une université de 3000 personnels, les promotions, les avancements à l'échelon, etc., représentent la somme de 500 000 euros par an. Et cette somme-là n'est pas totalement prise en charge par l'État, ce qui oblige les universités à parfois trouver, par exemple, les fonds nécessaires pour garantir le respect de ce principe. Au Japon, il y a également un autre principe qui s'appliquait depuis 1945, qu'on appelait l'idéologie égalitaire du Mina Onagi, qui veut dire, en fait, en français, tout le monde est pareil. Hein. Je vais faire un peu rapidement. Je vois que ma prononciation ne doit pas être tout à fait parfaite, puisque... Ça va ? Bon. Et là, on a une idée très intéressante, c'est que cette idéologie-là a changé. Le salaire dépendait uniquement du niveau de diplôme et de la date d'entrée dans la fonction publique. Et en raison des contraintes économiques, mais également de l'influence de l'idéologie libérale, on s'aperçoit qu'il y a eu un glissement. Et non pas à renoncer à cette idéologie, mais on l'a relativisée. Et l'idée a consisté à vouloir, et c'est une autre convergence avec la France, à réduire de façon significative le nombre de fonctionnaires dans le secteur public. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'en ce moment, quelques mois avant une élection présidentielle, certains dans notre pays vont quand même jusqu'à dire qu'il faudrait supprimer 1 million de fonctionnaires quand ils sont en bonne forme, et puis le lendemain c'est 500 000. Mais enfin, en tout cas, on est quand même dans un registre quantitatif non négligeable. Alors, ben c'est ce qui s'est passé, finalement, au Japon. Alors même que, je l'avais dit tout à l'heure, les fonctionnaires ne représentaient que 6% de la population active au Japon. Dans les pays de l'OCDE, le Japon est l'avant-dernier pays concernant ce pourcentage. C'est là où il y a le moins de fonctionnaires par rapport à la population active. 33e place occupée par le Japon. Alors que la France est allègrement sur le podium, hein, avec c'est plus de 20%. Et bien pourtant, malgré cette caractéristique, et ça peut surprendre, le Premier ministre Obuchi Keizo a, en 1998, souhaité réduire de 25% le nombre de fonctionnaires au Japon. En France, c'était le président Nicolas Sarkozy, a souhaité réduire de 150 000. Alors en France, on a peur des pourcentages, donc on dit en nombre, 150 000 le nombre de fonctionnaires, ce qui a été fait entre 2009 et 2012, essentiellement. Mais dans les deux cas, il y a une différence quand même. C'est qu'au Japon, il y a eu des réformes structurelles, dont je vais dire deux mots, notamment 4 réformes essentielles, alors qu'en France, on a tout misé sur la démographie. Là, on verra tout à l'heure, il y a une différence énorme entre la France et le Japon. En France, un fonctionnaire sur deux a été recruté dans la génération issue de la Seconde Guerre mondiale, qu'on a appelée la génération baby-boom, qui est en train de devenir, dans notre fonction publique, ce qu'on appelle maintenant, c'est moins, l'expression n'est pas très valorisante, mais bon, la génération papy-boom. Et du coup, le fait qu'un agent sur deux soit issu de cette génération, on a décidé tout simplement de ne pas remplacer un départ à la retraite sur deux pendant 3 ans. Et comme on avait énormément de départs à la retraite entre 2010 et 2012, avec 80 000 départs, 70 000 départs, mécaniquement, on a supprimé 35 000 emplois, 40 000, on ne les reconduisait pas. Donc il y a eu une suppression, 150 000 emplois, dans la fonction publique d'État seulement, et seulement elle. Et parallèlement, on a continué à recruter largement dans la fonction publique territoriale, la fonction publique locale. Mais c'est une manœuvre à un coût, parce que maintenant, tous les fonctionnaires de cette génération sont partis à la retraite, et quand on dit qu'il faut supprimer 500 000 emplois, là, ça veut dire très clairement qu'on va entrer dans des réformes qui n'auront rien à voir, puisqu'elles ne seront pas justifiées par des départs pléthoriques à la retraite. Alors au Japon, au contraire, il y a un phénomène assez intéressant concernant justement cette réduction du nombre de fonctionnaires. J'en dirai deux mots tout à l'heure, puisque ce sont des divergences. Mais on a une autre convergence que j'évoque avant rapidement, puisque mon collègue a réduit son discours pour que je puisse intervenir, donc je ne vais surtout pas en profiter pour allonger le mien, ce serait indélicat de ma part, c'est la baisse de la charge salariale des fonctionnaires. Je l'ai dit tout à l'heure, en France, il y a cette volonté de réduire le coût. Très clairement, le budget de l'État, 40%, 41%, est consacré à la rémunération des fonctionnaires. Et c'est un poids que l'on peut trouver considérable. Maintenant, dans n'importe quelle entreprise, si l'on regarde le coût, le pourcentage de la masse salariale, on arrive à 40%, 45%, voire parfois 50%. Mais c'est vrai qu'on a un secteur public considérable. Donc, qu'a-t-on fait en France pour neutraliser cette augmentation? On a gelé ce qu'on appelle le point indiciaire, qui permet de calculer le traitement de tous les fonctionnaires. On l'a gelé pendant 6 ans, de 2010 à 2016. Alors le point indiciaire, pour nos collègues japonais, quand on augmente le point indiciaire, tous les fonctionnaires sont augmentés. Donc vous augmentez de 0,6%, ce qui a été le cas en juillet dernier. On a dégelé en juillet dernier, c'est toujours comme ça un an avant les élections. Ça représente à peu près, pour les finances publiques, 1 milliard d'euros. Sur le traitement d'un fonctionnaire, ça représente entre 15 et 18 euros par mois. Donc, politiquement, on dit qu'on augmente, et c'est vrai que ça va coûter 2 milliards d'euros, 0,6 là en juillet et 0,6 en février. C'est coûteux, 2 milliards d'euros. Mais par contre, sur la feuille de traitement, c'est un peu ridicule. Et c'est, en fait, la vraie progression dans la carrière, c'est l'avancement à l'ancienneté, comme au Japon. Et c'est ça qui permet véritablement aux fonctionnaires d'avoir une augmentation de la rémunération. Donc on a ce jeu un peu étrange où les syndicats disent qu'il faut augmenter le point indiciaire. Donc un point, je rappelle, c'est 2,4 milliards d'euros pour le budget. Alors qu'en réalité, la progression salariale a continué puisque l'avancement à l'ancienneté est toujours le principe. L'autre convergence, c'est travailler plus longtemps. La démographie, évidemment, ici s'est invitée dans le débat concernant le fonctionnement des fonctions publiques au Japon et en France. Au Japon, la réforme a été plus radicale qu'en France sur un point. Il y a un passage, je crois que ce n'est pas encore tout à fait terminé, où on relève de 60 à 65 ans le départ à la retraite. On reporte de 5 ans. En France, on a différé de 2 ans. On a allongé la durée de carrière de 2 ans. Mais par contre, on a modifié une autre variable, c'est-à-dire qu'avant, on avait une retraite au taux maximum quand on travaillait 37 ans et demi, pardon, je vais y arriver. Et c'est passé à 43 ans en quelques années. Donc cela veut dire que pour une retraite à taux plein, l'actuelle génération doit travailler 6 ans et demi de plus que la génération qui est partie à la retraite. Et puis, on a justifié ça par l'accroissement de l'espérance de vie. Donc on présente comme un progrès social le fait de dire que, puisqu'on vit plus longtemps après la retraite, autant reporter le départ en retraite. Alors que le vrai progrès, ce serait, mais profitons-en plus longtemps et gardons justement ce départ à 60 ans ou 65 ans. Enfin, peu importe, il y a toujours des justifications qui font parfois sourire. Donc deux réponses différentes qui ont été apportées à un phénomène similaire qui finalement permet de comprendre que le Japon et la France ont été exposés au même phénomène, le vieillissement de la population, avec, et là j'en viens aux divergences, quand même des différences entre le Japon et la France. Alors la première divergence, je vais faire plus vite, c'est le nombre de fonctionnaires. Je l'ai dit tout à l'heure, En 2016, chiffre pour le Japon, il y a moins de 300 000 fonctionnaires au Japon, contre 5,3 millions en France. Alors que si on regarde la population, il y a deux fois plus d'habitants au Japon qu'en France. Après, la démographie réserve des surprises. En 2100, il y aura moins d'habitants au Japon qu'en France aujourd'hui. C'est la projection démographique qui est liée à un taux de natalité très différent. Il y a pratiquement un point d'écart au taux de natalité entre la France et le Japon. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'en 1967, il y avait 900 000 fonctionnaires au Japon. Et en 2002, encore 807 000. Ce qui veut dire que 500 000 fonctionnaires ont disparu, entre guillemets, en 15 ans. Alors que s'est-il passé pour justement réduire d'autant le périmètre ? Il y a eu des réformes structurelles, notamment une réforme de la poste japonaise, moins 286 000 fonctionnaires. Et au Japon, ça a été d'un coup. Alors que nous, en France, on a réformé la poste, mais on l'a réformée en 1996, et la réforme finira ses effets en 2020. Donc nous, on met 25 ans là où en un an, c'est fait. Faut dire qu'il y a le statut de fonctionnaire de la Poste en France, un poids syndical qui est peut-être pas le même, et une volonté qui a été, j'allais dire, assumée à l'époque de dire les fonctionnaires à la Poste pourront rester fonctionnaires, mais ils peuvent également devenir salariés s'ils le souhaitent. Résultat, la plupart d'entre eux ont souhaité rester fonctionnaires, mais on a posé un nouveau principe. Depuis 2002, on ne peut plus recruter de fonctionnaires à la Poste, et le fait de ne plus recruter de fonctionnaires avec les départs à la retraite, eh bien, bientôt, il n'y aura plus de fonctionnaires à la Poste mécaniquement. Il y a une autre réforme importante, et là, c'est intéressant pour nos collègues à la fois français et japonais, mais pour les collègues français plutôt sur ce point-là, c'est la réforme des universités. Une réforme considérable des universités au Japon, qui sont devenues pour la plupart d'entre elles des sociétés. Et du coup, mécaniquement, moins 133 000 fonctionnaires en 2004. On imagine si on faisait comme ça brutalement en France, la manifestation à laquelle on aurait droit. Donc depuis le 1er avril 2004, il y a des universités privées qui sont les plus nombreuses, et puis 80 ou 90 universités dites nationales, qui sont, je veux pas être blessant, hein, mais j'ai compris que c'était les universités les plus prestigieuses, qui sont d'origine impériale, et c'est là qu'on a essentiellement étudiants de master, de doctorat, qu'on a les recherches fondamentales appliquées, etc. Et finalement, c'est assez intéressant de voir l'évolution, parce qu'au Japon, l'idée, c'est d'avoir 30 pôles d'excellence sur lesquels on cible la recherche fondamentale, qui vont bénéficier d'un maximum de crédits. Et à côté, on a des universités privées qui accueillent les étudiants, plutôt de premier cycle, avec un coût qui n'a rien à voir avec celui qui existe en France. En France, pour nos collègues japonais, je rappelle que c'est 184 euros l'année. Donc une licence coûte 500 euros dans notre pays. C'est moins cher qu'un abonnement de téléphone portable. Alors qu'au Japon, dans les universités privées, c'est 10 000 euros à peu près. Et dans une université nationale, c'est à peu près 5 000 euros par an. Voilà. Donc il y a des logiques qui sont différentes. Mais par contre, dans cette différence, on a une convergence. L'idée, c'est d'avoir 30 pôles. Et en France, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de regrouper les universités. Il y en a 25 qui ont disparu, là, en 5 ans. On a 90 universités, on est un peu moins de 70 aujourd'hui. Et l'idée à terme, c'est d'avoir 30 pôles, ce qu'on appelle des communes en ce moment, mais qui seront à la fin des universités. Le big is beautiful, c'est une logique qui est mondiale, hein, d'avoir des établissements plus gros, qui iront chercher les crédits et puis qui auront les prix Nobel, comme c'est le cas au Japon. Alors, autre divergence, c'est le recrutement des retraités dans la fonction publique japonaise. On a un peu inversé le principe, il y a une inversion du logiciel. Au Japon, il y a une très belle pratique, j'ai beaucoup aimé l'expression, c'est la pratique de l'amakudari, qui signifie en français « descente du ciel ». Alors j'aime beaucoup cette expression-là, qui consiste en fait à encourager les agents, les fonctionnaires, lorsqu'ils approchent de la retraite, à partir plus tôt et à travailler dans le secteur privé. Et donc on avait comme ça une mobilité vers le secteur privé, qui permettait de dégager également les postes de responsabilité. En France comme au Japon, il y a un moment, on a un goulet d'étranglement et c'est difficile d'accéder aux postes de responsabilité. Et donc les personnes avant 60 ans allaient dans le privé, la descente du ciel, et puis ceux qui étaient en dessous permettaient d'avoir des responsabilités. Eh bien en France, on a inventé ça dans l'armée aussi, ça s'appelait le conditionnalat. On avait un goulet d'étranglement au niveau des officiers ici, dans notre pays, et on leur proposait de dire « on va vous promouvoir, cher colonel, vous serez général, mais 6 mois après, vous démissionnez ». C'était ça le conditionnalat. On vous promeut, mais on démissionne plus tard. Double intérêt, un poste de colonel et un poste de général qui se libèrent. Intérêt pour l'agent, une retraite de général et non pas de colonel. Bon. Le Conseil d'État a moyennement apprécié cette pratique, il a jugé illégale en disant « on ne fait pas de convention dans la fonction publique, c'est un droit statutaire, donc je juge cette pratique illégale ». Qu'a-t-on fait ? Eh bien, on a neutralisé la jurisprudence du Conseil d'État en votant une loi qui jusqu'en 2019 applique un système dit de « promotion fonctionnelle », c'est moins parlant que conditionnala, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, jusqu'en 2019, la promotion au grade supérieur des sous-officiers et officiers s'effectue après accord écrit préalable de l'agent concernant sa volonté de démissionner. Donc on a fait la même chose, sauf que là, il y a désormais une base légale. Dernière divergence, pour ne pas abuser de votre patience, j'en avais deux autres, mais je remettrai à disposition le document écrit de mon papier. C'est la prise en compte différente, et là c'est très intéressant, de l'éthique et de la déontologie. Le Japon était très en avance sur la France, sur ce terrain-là, le terrain de la déontologie ou de la morale professionnelle, qui d'ailleurs explique que je parte très vite puisque je dois présenter la charte de déontologie et d'éthique de l'université à la communauté universitaire à 14h cet après-midi. Dès 1997, il y avait un organisme national de gestion des personnels qui a publié un important livret au Japon qui s'appelle « L'éthique dans le service public ». Et chaque ministère était obligé de mettre en place un code de bonne conduite. Il y a même eu apparemment des cassettes qui étaient distribuées dans les administrations sur la préservation de l'éthique. J'ai également noté une loi très intéressante du 9 août 1999 sur l'éthique dans la fonction publique qui oblige les hauts fonctionnaires à déclarer les cadeaux et les faveurs d'une valeur supérieure à 5000 yens offerts par les entreprises et les institutions. Et puis, autre avance, et là il y a une divergence vraiment avec la France, la Constitution japonaise a un article, l'article 15 de la section 2, qui affirme, je cite, « tout fonctionnaire est au service de l'ensemble de la communauté et non d'un seul groupe ». Et j'ai repris cette phrase, pour être un peu provocateur, pour expliquer l'intérêt d'une charte de déontologie dans une université. Un personnel biatch, un ancien chercheur, ne travaille pas pour un labo, ne travaille pas pour sa fac, il travaille pour une communauté qui généralement regroupe plusieurs milliers de personnes. Je suis très tenté d'intégrer dans une charte cet article de la Constitution japonaise qui montre bien qu'à un moment il faut raisonner en termes d'intérêt général. Et finalement, en France, qu'a-t-on fait ? La première réforme sur la déontologie, avril 2016, elle vient d'être adoptée, là, tout récemment. Et alors, elle est très importante, parce qu'elle fait entrer dans notre statut général le mot déontologie. Et un certain nombre d'obligations qui étaient morales ou qui étaient jurisprudentielles sont désormais dans le statut général. Donc on a un changement de logique, on passe, aurait dit le grand juriste Carbonnier, professeur droit des obligations, qui est allé souvent au Japon, si ma mémoire est bonne, on passe d'un droit non écrit dans la jurisprudence à un droit écrit qui fixe de nouvelles obligations. Et puis depuis 2013 seulement, il y a des obligations de déclaration patrimoniale concernant les hauts fonctionnaires. Donc là, une divergence très importante sur ce terrain-là de l'éthique et de la morale. Là comme ailleurs, et c'est là tout l'intérêt aussi de nos débats, c'est que finalement, on s'est beaucoup inspiré du Japon pour introduire la notion de déontologie dans notre statut général. Toutes mes excuses pour avoir légèrement débordé. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Aubin. Le contenu était tout à fait très riche et vous avez bien montré les convergences et divergences des fonctionnaires publics du Japon et de la France. Et vous avez bien prononcé Nenko Joretsu, Mina Onaji. Et Amakutari, vous avez prononcé aussi.
Oui.
Oui, c'est bien. Tout à fait compréhensible. Alors, l'exposé, c'est fini. Et il ne reste que à peu près 5 ou 6 minutes, malheureusement. Mais quand même, on va entrer dans le débat. Y a-t-il quelques questions ? Oui ?
Une petite question, parce que lorsque j'ai vu les statistiques là, de combien de fonctionnaires en France et au Japon, je suis étonné comme tout le monde. Et je ne sais pas, quelle est la conclusion sur, de ces statistiques sur le poids du travail sur le fonctionnaire en France et au Japon? Parce que le travail d'un fonctionnaire, il est le même ici ou ailleurs. Donc, si vous voulez, si on, simplement, on divise 300 sur 22, ça nous donne beaucoup de travail pour un Français, un Japonais pour un Français, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez quelques données sur ça? Merci.
Alors, en fait, je crois que c'est lié à une tradition française d'un nombre de services publics très développé. Et l'idée du statut général, c'était en 1946, il n'y a pas de hasard, il fallait sécuriser les personnes. Et donner un statut, c'était non pas donner l'emploi à vie, comme on le dit souvent en caricaturant, mais c'était protéger les fonctionnaires contre l'influence du politique, contre la possibilité ou la tentation qu'auraient des administratifs ou des politiques de pouvoir tout simplement licencier en fonction de la situation politique du moment, en fonction de l'économie, etc. Le statut a permis également d'avoir un certain nombre de droits qu'avaient les travailleurs du secteur privé. Le droit syndical a été reconnu en 1946 seulement, le droit de grève également. Avant, je rappelle, on part de loin, hein, 1936... 1933-36, on a eu des grèves importantes à la Poste en France. Le Conseil d'État jugeait que le fait de faire grève pour un fonctionnaire, ça rompait le contrat et on pouvait le révoquer. Et il y a eu 6000 licenciements dans la Poste en 1935, après les manifestations de 1934. Donc le statut est arrivé dans ce contexte-là. Et le poids, en fait, c'est vrai que les fonctions sont les mêmes en France comme au Japon. Il y a un découpage quand même en termes de fonctions, en termes de services publics qui est différent. Et puis surtout, il y a une différence essentielle, c'est qu'au Japon, les agents effectuent ce travail sur un statut, sous un statut contractuel, alors qu'en France, dès que l'on touche au statut, on a toujours la peur de manifestations. Vous savez qu'on est quand même aussi les champions du monde des manifestations. Et dès qu'on fait une réforme essentielle, changer la base juridique de la relation du travail, on craint d'avoir des manifestations très importantes dans la rue. Donc inutile de vous dire que 6 mois avant des élections présidentielles et législatives, personne n'a envie de dire on touche au statut. Par contre, on le dit d'une façon différente en disant on va supprimer 1 million d'emplois, on va supprimer 500 000. Mais au fond, le problème sera le même, je suis d'accord avec vous. À la fin du mois, il faut quand même payer la personne. Et qu'elle soit sous statut ou bien sous une logique contractuelle, il faut bien qu'il y ait la rémunération qui intervienne. Alors, pour répondre également à votre question, parfois, il y a des choix qui sont faits, des choix de société. Au Japon, et ce n'est pas un jugement de valeur, entendons-nous bien, la réforme universitaire a transféré sur les familles le coût des études. Et il y a un endettement des étudiants japonais qui est colossal au Japon. Aux États-Unis, je rappelle que c'est 1 000 milliards de dollars d'endettement des étudiants. Alors, quand en France, on entend dire des personnes qu'il faut augmenter les droits, etc., si on veut créer une autre crise financière, effectivement, on met 5 000 ou 10 000 ou 15 000 euros et on l'aura. Donc il y a ce choix, soit on repart sur la société, les parents, soit sur la société, le budget. Bon, en France, le choix a été fait, on a un service public quasiment gratuit. Au Japon, le choix a été fait de faire supporter ce service public sur les familles. Mais au final, ça permet de faire rémunérer les fonctionnaires dans un cadre juridique différent.
Oui, allez-y. Très, très, très étonné de ce que vous avez dit, parce que, bon, il faut comparer ce qui est comparable. L'expérience que j'ai, en tout cas du Japon, c'est que souvent dans la fonction publique, en particulier dans le domaine judiciaire, dans la justice, les fonctionnaires ne sont pas sous statut, ils sont sous contrat. Oui. C'est le mécanisme américain, c'est-à-dire que c'est des contrats longs, de 10 ans, et il y a un régime juridique qui s'apparente davantage aux contrats de droit privé chez nous, mais au contrat, comme aux États-Unis, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire, le modèle d'ailleurs est plus un modèle de la fonction publique américaine que de la fonction publique française. Donc il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Et il s'agit notamment de personnes donc, qui sont sous statut de droit privé dérogatoire, avec des contrats de longue durée. Il est plus difficile de les renvoyer, comme les fonctionnaires américains. Ce qu'on appelle les fonctionnaires américains, ce sont des personnes qui sont sous contrat de travail de droit privé, mais un contrat de travail dérogatoire, plus protecteur que le contrat de travail classique. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Si on compare d'un côté un statut, de l'autre côté, ça ne veut plus rien dire. Bon, première chose. Deuxième chose, également, vous dites 300 000 fonctionnaires d'un côté, 5 millions de l'autre. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait 5 millions de fonctionnaires en France. Hein, ça resterait à vérifier. Mais vous incluez dans ces cas-là les fonctionnaires des collectivités locales.
Oui, bien sûr.
Eh ben, oui, mais il faut comparer ce qui est comparable.
État territorial.
Et vous parlez de 300 000 fonctionnaires de l'État au Japon.
Oui, oui.
300 000 fonctionnaires de l'État. Parce que il faut bien comprendre que les communes, les municipalités ont des services dont ne disposent pas nos municipalités. Premièrement, et la taille, on ne va pas débattre de cela, mais la taille, la masse critique d'une municipalité, c'est de l'ordre du million d'habitants. On n'est pas du tout, on ne joue pas du tout dans les mêmes proportions. Et une municipalité va par exemple s'occuper du droit des étrangers. Il y a des correspondants du ministère de la Justice dans les municipalités qui s'occupera du droit des étrangers. Vous devez faire renouveler votre carte, vous allez à la ville. Donc là, vous avez affaire à des fonctionnaires qui sont des fonctionnaires municipaux, pas des fonctionnaires d'État. Ils n'entrent pas dans vos statistiques. Et je ne suis pas du tout sûr, en tout cas, moi, l'impression que j'ai, du côté des villes, qu'on ait plutôt moins de fonctionnaires. Donc il faut comparer à la fois le statut et quand on dit le nombre, je dis ce qui est aberrant en France, dans le discours, je dirais, en quelque sorte militant que l'on entend, c'est d'un côté, il y a trop de fonctionnaires, il y a 5 millions de fonctionnaires, mais on inclut la fonction publique territoriale. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et maîtriser la fonction publique d'État, mais pas du tout la fonction publique territoriale. C'est la vérité. Alors qu'au Japon, il y a une maîtrise, y compris de la fonction publique territoriale.
Pardon, Thierry, vous arrêtez, s'il vous plaît.
Je dirais que c'est ce qui fait la différence. Alors, il ne faut pas donner une statistique d'un côté qui concerne la fonction publique d'État et de l'autre côté qui concerne la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Il faut comparer ce qui est comparable.
Il y a la fonction publique hospitalière.
Oui, alors
oui, pardon. Attendez. Avant votre réponse, on écoute la dernière question, sera faite par Pascal Sergien.
Oui, c'est très court, parce qu'il y a aussi la fonction publique hospitalière, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Non, c'est par rapport à l'endettement du Japon. Et donc le lien par rapport à la réforme donc des fonctionnaires. Et j'en viens à la contractualisation. C'est vrai que c'est à 245% du PIB, mais il y a quand même une très grande différence entre le Japon et la France, c'est que près de 95% de la dette japonaise est détenue par des résidents, alors que nous, c'est à 75% par les étrangers. Donc ça fait quand même une très, très, très nette différence. Et donc, du coup, je me suis posé la question par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que, véritablement, la réforme qui a été entreprise au Japon, elle s'explique avant tout pour des raisons financières, puisqu'on ne perçoit pas la dette du tout de la même façon. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, dans quel secteur précisément les efforts, de réduction du nombre de fonctionnaires ont été faits? Quels ont été les secteurs privilégiés dans la contraction du périmètre de la fonction publique?
Merci, monsieur Baksaja. Voudrez-vous répondre d'emblée, s'il vous plaît?
Merci. Alors, je vais essayer de faire court. À la première question, je suis allé un peu vite, c'est vrai, mais il y a trois fonctions publiques, d'abord, et pas que deux en France, alors qu'au Japon, il y a la fonction publique d'État et la fonction publique, effectivement, des collectivités territoriales, qui sont toutes deux soumises... Oui, qui sont toutes deux soumises à un droit qui est imposé et pas négocié. C'est-à-dire que c'est la loi qui fixe un statut... qu'on le veuille ou pas, c'est quand même la loi qui fixe un statut général au Japon. Et ensuite, il y a une déclinaison sur la situation de travail. Mais on a bien un statut général au Japon dans deux fonctions publiques, État, collectivité territoriale. Sachant en plus qu'il y a une particularité dans les collectivités territoriales, et donc ça va me permettre de répondre à votre question, pour comparer ce qui est comparable, lorsque la délégation ministérielle est venue en France, ce qui l'intéressait, c'était de réformer la fonction publique territorial au Japon, en s'appuyant sur ce qui existe en France. Donc je ne pense pas qu'il faille peut-être les distinguer comme vous le disiez, parce que ce qui était intéressant pour la délégation, c'est comment faites-vous en France avec 36 000 communes, les régions, les départements, pour garantir une rémunération qui soit relativement égale sur le territoire en fonction d'un fonctionnaire, au regard d'un fonctionnaire qui serait au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et ce qui intéressait, enfin le débat portait sur le principe d'égalité. Comment peut-on admettre des différences, des écarts de rémunération alors même qu'on est sous statut? Et ça portait essentiellement sur cette variable d'ajustement-là. Et c'était tout à fait intéressant d'ailleurs de voir que, effectivement, le mode de fonctionnement dans les collectivités territoriales n'est pas du tout le même, puisque pour aller dans votre sens, et toujours de la comparaison intelligente, de votre côté, hein, pas du mien, dans les collectivités territoriales japonaises, il y a un principe d'égalité salariale entre secteur public et secteur privé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un fonctionnaire ayant la même fonction qu'un salarié ait un salaire inférieur. C'est l'idée justement de « tout le monde est pareil ». Et on s'aperçoit qu'avec les régimes indemnitaires, il y a des écarts de 0 à 20%. Et la réforme qui avait été engagée en 2012, avant l'alternance politique au Japon, visait à réduire les écarts de rémunération entre fonctionnaires territoriaux et salariés. Et donc là, effectivement, en France, on n'imagine pas être dans une logique comme celle-ci. Cette réforme n'a pas été menée, elle n'a pas été adoptée par la Diète, qui en octobre 2012 n'a pas donné suite, mais elle visait à égaliser un peu les situations. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation totalement différente sur ce terrain-là. Alors, sur la deuxième question que tu posais, la Poste, des agences de l'État qui ont été restructurées en entreprises, et puis les universités. C'est vraiment les trois secteurs dans lesquels il y a eu des restructurations qui ont changé la base juridique de la gestion de ces activités et qui ont reporté vers le secteur privé la prise en charge de ces activités.
Merci beaucoup de votre réponse. Alors, malheureusement, le temps est épuisé. Je déclare la clôture de la séance de la matinée. Merci de votre coopération. Merci.